Salut, c'est Champ Libre. Champ Libre numéro 513, Champ Libre de mai 2014. Je vais commencer ce Champ Libre par un hommage, une fois n'est pas coutume, à quelqu'un qui nous a quittés cette semaine, il y a une semaine. Il s'appelait Guy Bickel. Il était trompettiste dans un groupe français qui s'appelait Catonoma. Et je me souviens de ce mois de mars 97, alors qu'il y avait des manifestations contre la haine qui se déversaient de toutes parts, dans les médias mais également dans les rues. Je me souviens que le groupe Catonoma avait distribué gratuitement un disque. Cette même haine risque d'être en tête aux élections européennes de ce dimanche. Alors voilà, avis personnel de l'animateur de Champ Libre, ne vous trompez pas de combat, l'union est souvent plus forte que l'isolement, et même si on doit resserrer quelques boulons, j'ai pas trop envie d'avoir envie de marcher au pas de loi. Lors des manifs de 97 à Strasbourg contre cette même FN, Catonoma avait distribué un EP qui s'appelait Égal Zéro. Et je vous propose de commencer cette émission avec ce titre.
On a fait cet égal, partout égal. Zéro. On zappe et c'est égal, partout égal. Zéro. À la tête de l'État, un vieux politicard matois qui se prend pour le roi. Et un petit marquis qui se prend pour Dieu sait qui. Font leurs petites affaires par un duel. Et mafieux, ma fille, m'as-tu vu? On cire le parquet de Paris. C'est tout bon, ma chérie, dit-il, de se voir si riche en ce miroir. Et c'est égal, partout égal. Zéro. On zappe et c'est égal, partout égal. Zéro. Si nos gouvernements, les barons font la claque tandis que veille la clique des bons clients de classe à droite en prenant la censure. L'amour des électeurs revient la haine des haines des beurs. Les sons qui veulent qu'ils disent ce que les sondés veulent, mais le dégoût est insondable. Ils nous parlent d'éthique et caisse, c'est la morale du tiroir caisse. On nous ment tellement, nos gouvernements. On nous ment tellement. Nos gouvernements. Face à la montée des penchants les plus bas, on se couche. Le PS envoie son tocard louche au Castille. La droite en rajoute à la louche. Au pays des faux culs, n'a qu'un œil fait mouche. Le petit commissaire est intronisé peine cul de Le Pen par le sous-inspecteur de la brigade des stupidités. Vite fermez les volets, ils vont vitroler le visage des hébergés. Demain, ils donneront les chiens, les bergers allemands, les hommes demain. mortellement, qu'on meurt anonymement. On nous ment tellement, qu'on meurt anonymement.
Égal 0, 4 tonomas. Guy Bickel était le trompettiste du groupe Catonoma. Le chanteur s'appelle Rodolphe Burger et il est relativement connu aujourd'hui. Voilà, le chant libre de ce soir, c'est le chant libre mensuel, donc un chant libre dans lequel nos invités habituels vont nous parler, Carole, de musique,
bonsoir,
de disques. Et Johnny.
De cinéma.
De cinéma.
Absolument.
Et qui est à la technique ?
Lolo.
Lolo, c'est Laurent.
Non, bah tiens, Lolo, qu'est-ce que tu fais là ?
Ah bah, on ne le voyait pas derrière la vitre. Oui, donc on va parler de cinéma. Il y aura la rubrique favori de l'émission, qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Ça aurait pu être Manset, puisque... Voilà.
Tu te renouvelles pas trop. Hein.
Voilà, mais du coup, j'ai décidé de mettre un titre de Manset en fin d'émission.
Oui.
Ah bah, ouais, moi, j'aime bien l'album qui est actuellement favori de l'émission. Lucas McCombs, là.
Ça fait 2 mois que tu mets en favori.
Ouais, peut-être pas, mais oui.
En fait, voilà. Tu mets l'intégrale, là, comme ça, t'en as pour
non,
jusqu'à
là,
l'année
là,
prochaine.
Non, là, on vient de recommencer, là. D'accord. C'est un double CD. Hein. Voilà. attention, hein, les titres que tu vas proposer tout à l'heure peuvent devenir les favoris de l'émission, qui sait. Tout dépend de la prestation que tu vas assurer dans quelques minutes. Oui, et puis donc, on passera un titre de l'album de Manset, Un oiseau s'est posé. Donc, vous avez pu écouter il y a 2 semaines le chant libre spécial Gérard Manset. Mais comme moi, je ne me lasse pas de ce disque, je vous propose d'en écouter un titre un peu long. On va le mettre comme ça en fin d'émission. Et on va commencer tout de suite avec le cinéma.
Cinéma, absolument. Bonsoir. Donc, qui dit dimanche élection européenne, mais dit aussi jour du palmarès du Festival de Cannes.
Ah,
mais moi, je n'en parlerai pas.
C'est pas Strasbourg.
Ah non, non. Moi, j'en parlerai pas parce que... Déjà, d'une, je n'ai vu aucun film pour l'instant. Et en plus, la sélection n'est pas super folichonne, hein, il faut le dire.
Ouais.
Donc moi, je me suis intéressé plutôt à un petit film indépendant. Et particulièrement à un petit bled de l'Oregon, en fait. C'est Night Moves de Kelly Richards. Bref, petit résumé. Josh est un homme, jeune homme, plutôt discret, étrange, renfermé, qui travaille dans une exploitation agricole bio. Sa meilleure amie, Dana, possède un caractère plus extraverti, voire plus sympathique, mais partage la même conviction que Josh, en l'occurrence, faire de la défense de l'environnement leur raison d'existence et leur véritable combat. Les deux amis rencontrent une tierce personne, Harmon, ermite farfelu, perdu au fond des bois, tous trois échafaudent d'un plan mystérieux que nous ne tardons pas à découvrir cependant. Ils achètent un bateau, une grande quantité d'engrais, des bâtons de dynamite, bref, un attentat se prépare, la cible, un barrage. Voilà, le décor est planté. Donc moi, je trouve que Night Moves, c'est un beau croisement entre les univers aussi différents que planants de Gus Van Sant et Jeff Nichols. C'est une excellente surprise qui vient sans aucun doute confirmer le talent de la réalisatrice. Donc c'est le 5e film, hein, rappelons-le. Après le triste et doux Wendy et Lucy et la très étrange dernière piste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref, au milieu de la beauté plastique de ces paysages de l'Oregon, subrepticement, la tension s'installe entre les personnages et cette mission qui, une fois accomplie, va révéler en fait la véritable nature des membres du trio. Chaque fait, chaque geste est filmé minutieusement et de manière latente. L'étirement de certaines scènes laisse poindre une sourde inquiétude et c'est presque avec le rythme d'un fleuve qui coule que l'on assiste au changement progressif des personnages, comme la paranoïa explosive de Josh. Ou la métamorphose, très flippante d'ailleurs, hein, physique de Dana. Sans aucune transition, et c'est là la force du film, moi je trouve, nous passons alors de la chronique contemplative d'un petit groupe écologiste révolutionnaire à un véritable thriller psychologique plutôt angoissant. Donc, pour moi, belle petite réussite. Film qui peut paraître inégal, parce qu'il y a vraiment deux genres bien distincts, mais je trouve la transition se fait bref, à la merveille. Donc c'est très très bien. Très très bien. Très très bon, très, très bon cinquième film en tout cas.
Donc Night Moves.
Night Moves.
Kelly.
Kelly Richards.
Alors on va parler un petit peu de ce film. Moi j'ai essayé de rassembler, là j'ai étalé tout ça sur la table du studio, j'ai rassemblé des critiques, alors des critiques de spectateurs, mais également des critiques de journalistes, Télérama, Libération, etc. Donc tu as décrit le scénario, ça commence comme un film... presque un film de casse à l'américaine.
Oui, et puis ouais, surtout, on ne sait pas trop au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit des jeunes écolos un peu perdus, qui sont amis les uns avec les autres, et puis dans un bled un petit peu paumé. Et puis petit à petit, comme je le disais, il y a des faits, des gestes qui sont éloquents. Ils préparent quelque chose, ils achètent un bateau, ils font un chemin de nuit au fin fond des bois, à la limite du Wyoming, et finalement, voilà, ils commencent à parler de quelque chose qu'ils vont faire, il faut être à la hauteur, etc., etc. Et du coup, on sent qu'il y a quelque chose qui est latent, qui est là, qui est tapis. Mmh.
Qui ne sera jamais vraiment dit dans le film.
Ah non, ils n'en parlent
pas.
C'est
un film tout en sous-entendu.
Tout en sous-entendu, tout en fait, en geste. Mais rien n'est dit. Tout reste
qu'en est-il suggéré. Des motivations des personnes. Ben, évidemment, moi, quand j'ai vu le scénario de ce film, quand ils l'ont annoncé il y a quelques mois, ça faisait penser tout de suite aux manifestations autour de l'aéroport. Et puis en fait, pas sûr, on ne sait pas quelles sont les motivations des trois. Si, le troisième, on sait que c'est un baroudeur. Enfin,
le troisième, c'est un baroudeur, c'est un ancien, et je pense que lui, pour le coup, il a une conviction qui est ferme. C'est-à-dire qu'il fait ça, je pense, parce qu'il a la conviction. C'est un écologiste... extrémiste, je dirais, pour le coup, et lui, il se bat vraiment pour cette cause-là. Ce qui n'est vraiment pas le cas des autres, qui sont plutôt jeunes, et on dirait juste que ils prennent le parti, en fait, d'être écolo et de faire ce forfait-là, en fait, pour une raison, soit la raison de s'assumer et d'exister tout simplement, en fait, dans une société qui ne les comprend pas et qui ne comprennent pas non plus, en fait. Donc c'est surtout, moi je trouve, c'est surtout deux êtres qui ne comprennent pas leur geste et qui le découvrent sur le tard et dont la situation leur échappe complètement, en fait.
Pour te rejoindre, je lisais dans Télérama, le journaliste qui, à l'époque, avait fait une critique plutôt positive du film, dit qu'effectivement, la première partie, ça ressemble à Préparation d'un casse, ça pourrait être n'importe quel film américain. Au milieu du film, il y a quelque chose de très bref qui fait qu'on bascule après dans le thriller psychologique.
Oui.
Et on va voir comment, surtout le garçon... va crever de trouille,
c'est ça,
pendant toute la fin du film.
Ouais.
Il paraît que là, on est presque dans un film d'épouvante.
Ah, mais c'est ça complètement.
Où l'angoisse du personnage transpire sur les écrans.
Ouais, et c'est pour ça que je parlais de ce basculement, parce qu'on ne voit pas ce changement arriver. Et pourtant, il y a un changement inéluctable, en fait, qui arrive. Et ce personnage qui a l'air taciturne, mais sympathique, malgré tout, qui devient de plus en plus menaçant, qui devient vraiment flippant, hein, il faut le dire. Et ça bascule effectivement vers le film d'épouvante, vers le film d'angoisse pure et dure vers la fin, alors que c'est pas un genre auquel on pense dans les premières, puis même au milieu du film. Ouais.
Alors, pour sans dénaturer le scénario au milieu du film, en fait, l'attentat réussit, mais il y a quelque chose qui foire, c'est que... ça vire à la catastrophe.
Surtout que voilà,
il y a la mort
d'une personne, et ce qui déclenche.
Je voulais aller le voir, maintenant c'est tout.
Non, mais c'est en fait c'est juste ce qui déclenche en fait les réactions des personnes. Ça n'a pas une importance en soi, en fait. C'est juste que ça déclenche effectivement des réactions diverses chez les personnages, et c'est là où effectivement ça bascule.
Alors
c'est pas le plus.
On pourrait se poser plein de questions sur ce qu'a voulu dire le Kelly
Richard.
Est-ce qu'aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel rien ne peut changer, puisque de toute façon, on est toujours rattrapé par ce monde et cette forme de société, même si l'écologie, l'idéalisme en général fait partie des vertus et des valeurs des plus jeunes, puis pourquoi pas aussi des anciens. Rien ne peut changer. Il y a quand même ce discours-là. Et puis, il y a un deuxième discours également, c'est est-ce qu'on peut changer les choses sans avoir recours à la violence ?
Oui. Complètement.
Là,
complètement. Après, je pense que le personnage principal, en fait, de Jesse Eisenberg, c'est Jesse Eisenberg qui joue le rôle de Josh, me fait penser énormément au personnage de Michael Shannon dans Tech Shelter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut montrer une menace potentielle, en l'occurrence le barrage, faire quelque chose pour. Il n'est pas forcément entendu. Et là, les choses le dépassent largement par la suite. Moi, c'est un film qui m'a fait beaucoup penser justement au film de Jeff Nichols, en fait. Et de par... Voilà, ce côté anodin au début d'une chose, une vie quotidienne qui se déroule, et puis petit à petit, le personnage change. Mm-hmm. Et puis on sent qu'il y a une modification de comportement, c'est quelqu'un qui veut pointer du doigt une menace, quelque chose, en l'occurrence le barrage ici, et les cyclones dans le Tech Shelter, et on voit qu'il est, voilà, il est écouté, plus ou moins écouté, on le prend un peu pour un ado, c'est pas grave. Il commet l'attentat et par la suite, voilà, la situation va complètement déraper. Donc, c'est fondamentalement, c'est pas la même chose, hein, mais je trouve que les deux films se ressemblent. Et dans l'ambiance et dans le.
Dans la première partie du film, on ne voit pas de manière claire non plus la relation entre Josh et la copine.
Oui.
Est-ce qui fait pas les choses aussi. Même pour elle, on ne saura pas ce qui va se passer ensuite.
On ne saura pas trop pourquoi, est-ce qu'il fait ça par rapport à elle. Leur relation est plutôt ambiguë pour le coup, je trouve. Mmh. Et ils ont l'air d'être frères et sœurs ou bons amis. On ne sent même pas un moment qu'il puisse se passer quelque chose de plus fort d'un point de vue affectif ou intime. Et c'est justement ce qui est troublant. Qu'est-ce qui peut les amener, à part une conviction qui ne s'avère même pas aussi forte que le troisième personnage par la suite, qu'est-ce qui peut les amener à faire ça? C'est une très bonne question, en fait, que pose le film, jusqu'où effectivement on est prêt à aller et à quel degré de violence, en fait, pour se prouver quelque chose ou pour essayer d'exister. Bon, c'est un film que j'ai trouvé très réussi, assez étrange, hein, il faut dire, assez déroutant quand même. Et petite parenthèse, si vous avez l'occasion de voir La Dernière Piste de Kelly Richards, qui pour le coup décline fabuleusement le film Jerry de Gus Van Sant à travers ses déambulations des pionniers en fait en 1840, qui faisait vraiment qui est antérieur vraiment aux balades sur les mers salées en fait de Casey Affleck et Matt Damon. Je trouve que c'est une superbe déclinaison de ce film là et moi je vous conseille vraiment de le voir également.
Alors, Jo, tu sais que normalement, dans Champ Libre, tu as droit à un mot.
Oui.
Et un mot.
Ah oui.
D'accord. Alors, on va essayer de faire réellement un mot et un mot. En général, j'en donne trois, il m'en donne 50. Là, on essaie. Nature, paysage. C'est avec un trait d'union.
J'ai droit à deux mots aussi.
Oui.
Très chouette.
Très bien comme ça.
Alors, voilà. En fait, la question que je voulais poser, c'est est-ce que cette nature n'est pas une véritable obsession à l'intérieur du film ?
Oui.
Elle est partout. Hein.
Oui, elle est partout.
Donc ambiance, atmosphère, etc. J'avais noté un mot, mais on va aller vite. J'avais noté frustration, surtout pour le spectateur, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses. On se pose des questions et on n'aura pas.
Ah, mais c'est ça qui est intéressant.
À ces questions-là.
C'est que, ouais.
Lenteur, oui ou non?
Oui, mais je trouve que le alors,
dialogue,
je vais employer
musique,
plus de deux mots pour le coup, je suis désolé. C'est vrai que lenteur, je suis complètement d'accord, mais ça va. C'est-à-dire, on s'ennuie pas une seconde. La lenteur, mais à côté de ça, ça va dans le. le flou, en fait, direct de ce que font les personnages.
On parlait hors antenne de films célèbres qui sont extrêmement lents.
Oui.
C'est pas dans l'air du temps d'aujourd'hui.
Mmh. Non, 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 mais effectivement, c'est bien parce qu'en plus, je trouve que ça va complètement avec ce qui se prépare à faire et ça renforce justement ce mystère, en fait, autour des personnages et de leur situation.
Un mot, oui ou non ? Pessimisme ? Pessimiste ?
Oh oui, 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 complètement.
Et on va terminer. Pureté.
Pureté ? Pureté par rapport à quoi ?
Les motivations des personnages dans le film ? Cette communauté bio.
Oui, sur cette communauté, pas sur les personnages du film. Sur les communautés, oui, pureté. On sent qu'eux, pour le coup, ce sont de véritables écolos et travaillent.
Sincérité, à ce moment.
Sincérité, peut-être. Après, la pureté des intentions, par contre, concernant les personnages, non, je ne pense pas.
Merci, Jo, pour cette rubrique. On rappelle le titre.
Night Moves, de la réalisatrice excellente et brillante Kelly Richards.
Et on enchaîne avec un titre du nouvel album de Woven End. L'album s'appelle Refractory Obdurate. Et le titre, Ibo, ces petits machins qu'on fait glisser sur les cordes d'une guitare. Woven End, nouvel album est sorti, le nouvel album est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, Refractory Obdurate. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, Carole le traduira tout à l'heure.
Bien sûr.
Hein, voilà, elle peut le faire.
Je peux.
Un Woven End qui est le groupe de David Eugene Edwards, qui était le leader chanteur du 16 Horsepower. Groupe qui a marqué les spectateurs qui ont pu le voir sur scène, mais qui avait marqué également des artistes, en particulier Quentin de Noir Désir, était un grand fan de 16 Horsepower. Et lorsque 16 Horsepower s'est dissous et est devenu Woven End, la musique est devenue encore plus sombre qu'à l'époque du Horsepower. Le bassiste de Wovenend a quitté le groupe et il joue avec Détroit, le groupe de Granta dont on parlait tout à l'heure. Et ils seront sur scène à Vienne.
Alors, j'ai plus la date exacte, c'est au mois de juin. Alors, on en reparlera.
Tu te souviens peut-être plus de la date du concert Wovenend, mais
si, c'est le 30, monsieur.
Pardon, du Détroit.
Non.
Mais par contre, le Wovenend.
C'est le 30 mai.
C'est le 30 mai.
Pas vendredi là, l'autre d'après.
Voilà.
À l'épicerie moderne.
Moderne à Faisin,
très excellente belle. Salle de concert avec une très très bonne programmation.
La bière est bonne.
La bière est excellente. Non, non, si, ça va.
Voilà.
Ça va, tout est bien.
Donc, il y a tout pour plaire. On n'est pas obligé de partir en vacances entre l'Ascension et le samedi. Et puis, en plus, il y en a qui ne travaillent pas.
Oui, il paraît.
Hein? Voilà. Donc, le 30 mai, qu'on se le dise, Wovenend en concert à Faisin. Comment on va dire? Un chanteur habité, un groupe hanté et une ambiance
possédée.
Qui promet d'être... oui. Tout à fait ça.
Très chamanique.
Carole, j'arrête de parler, je te laisse le
Mais
micro.
Ce serait temps quand même. T'as vu l'heure?
Allons-y.
C'est vrai que maintenant que j'ai plus de jingle, ça va mieux. Donc je vais présenter deux albums ce soir. Je vais commencer avec le Liz Green, donc révélé en 2012 avec son premier album remarquable, O Devotion, que j'avais chroniqué à sa sortie. La Rousse de Manchester revient avec son second album intitulé Holloway, sonnant comme une invitation au voyage. Alors larguez les amarres, moussaillons. L'illuminé Liz Green vous invite dans son univers à travers un voyage dans les méandres de son spleen, aussi envoûtant que surprenant. Dans une récente interview, Liz Green déclarait impassiblement que son nouvel album Holloway était plus joyeux que le premier, O Devotion, dans la mesure où, ouvrez les guillemets, au niveau des textes, il n'y a pas autant de gens qui meurent, fermez les guillemets. Son univers est celui d'une mélancolie sombre et cela ne peut être que renforcé par une pochette où son visage semble être envahi par un bleu océan. Liz Green s'affiche en partie peinturlurée de bleu, comme un corps de larmes devenu océan. Au dos de l'album, chaque titre de la tracklist est coincé dans une bouteille vide, comme ces bouteilles jetées à la mer. L'imagerie de cette pochette est en lien direct avec Holloway, qui donne son nom au disque. C'est un chant de marin inspiré de la nouvelle pipeline d'Edgar Keret et construit sur plusieurs rythmes et une mélodie principale au piano. Alors cet univers, justement, Liz Green le tient soigneusement, de chanson en chanson, comme le monde magique et un peu cruel d'Alice, mais avec une sonorité folk bien marquée. Le titre d'ouverture, Beitel, est une chanson d'amour tragique, jouée en bourdon, technique de notes répétitive, avec un banjo vieux de 100 ans qu'un de ses amis lui a échangé contre trois étagères Ikea. S'ensuit le titre Holloway, qui reste le témoin d'une harmonie technique, puisque l'on y trouve une richesse et une diversité musicale. Chaque instrument se manifeste, les uns après les autres, nous faisons voyager dans ce bateau, au milieu de l'équipage, remontant les cordes de l'ancre et hissant les voiles. L'intro chaude et vibrante de la contrebasse sur Ivka laisse place à une clarinette avec un accent klezmer, captivant, mettant en exergue un personnage dépressif au bord du suicide par un excès de malchance. Where the River Don't Flow est quant à lui un exemple de dramaturgie, décrit par Liz Green comme étant un titre de cirque bancal, étourdi, une célébration de la vie, un sillage ivre, bruyant, où deux amants sont prêts à toucher le fond par pure débauche. Tout ça servi sur un délicieux air de cabaret. De son premier album, O Devotion, l'artiste britannique a gardé cette propension à l'intime, rendue par un amour-travail des instruments acoustiques. Saxophone, tuba, trombone, flûte et violoncelle, auxquels s'ajoutent basse et batterie. Mais la grande nouveauté dans Holloway, c'est la présence quasi permanente du piano, qui apporte une douceur sensible à l'univers fragile de Liz Green. L'album évolue sur des notes très jazzy, jusqu'à l'émouvant Little Eye, titre entièrement instrumental dont la ligne principale est tenue par les claviers. L'artiste a composé ce titre en faisant référence à l'île de Little Eye, sur les côtes de West Kirby en Angleterre, où elle a grandi. Paraît-il que l'on y compte maintes histoires de sorcellerie et de contrebandiers. Et des histoires, elle nous enchante, Miss Green. Entre celle de Pénélope qui attendit son amour pendant 20 longues années, la mythologie se joue sur un air de guitare qui se transforme en polka, soutenu par cette voix qui, à bien des égards, se révèle être un merveilleux instrument dont elle use avec une expressive efficacité. Nul ne peut nier que Liz Green apporte une touche sincère et intemporelle, un je ne sais quoi qui donne envie de danser à la fois de joie et de tristesse. Le voyage onirique à bord du merveilleux Holloway est un accomplissement artistique et un délice car on se laisse bercer par des vagues de mélancolie et de douceur, créant une ambiance légère et séduisante. Alors on dit God Save Liz Green. On écoute tout de suite Where the River Don't Flow.
Do burn low. Who'll stop this fire when we go? We'll come on slowly, and who will go out fast? Who will be left here waiting at the last? When it's over, we'll go deep down where the river don't flow. And follow me if you care to go deep down where the river don't flow. Who will write the obits? Who will front the band? Who stop the traffic? Who will raise a hand? When it's over, we'll go deep down where the river don't flow. And follow me if you care to go deep down where the river don't flow.
C'était Liz Green, son dernier album Holloway. Et donc là, on va changer de registre puisque lundi dernier, c'était avec une grande appréhension que je mis le casque d'écoute sur du disquaire local sur mes délicates oreilles afin de découvrir le dernier album des Black Keys. Grosse sortie. Et comme bon nombre d'entre vous, j'avais eu l'occasion d'écouter le single Fever, diffusé de manière compulsive en radio. Et comme vous, j'ai cru entendre un dernier extrait du dernier U2. Et comme toi, fan de la première heure, je me suis dit que le duo de l'Ohio prenait la même pente descendante que les Kings of Leon. Et puis non, pas tant que ça.
Ils sont pas gentils, ces amis.
Turn Blue est une succession de 11 titres, efficace certes, à la production hyper léchée, certainement plus pop que leurs albums précédents El Camino, mais hors de question pour les Black Keys de revenir en arrière pour satisfaire quelques fans intégristes. On ne peut pas apprécier cet album sans prendre connaissance du témoignage de Patrick Carney, batteur des Black Keys. Alors là, je vais le citer parce que j'ouvre les guillemets. « Certains fans nous disent que l'on devrait réaliser un album comme en 2003. Ça fait chier d'entendre ça. À l'époque, il n'y avait personne à nos concerts. Je le sais, j'y étais. Faire un album qui ressemblerait à ce que nous produisions il y a 10 ans serait la chose la plus facile au monde. Il n'y aurait aucun challenge. La meilleure chose à faire pour un artiste est de travailler selon ses propres règles, quitte à ne pas satisfaire ses fans, mais en espérant que ces derniers suivent l'évolution. Évoluer n'est pas un manque de respect envers son public. Fermez les guillemets, voilà, c'est dit.
Calme-toi.
Je suis calme. L'album s'ouvre sur l'excellent Wild of Love. Durant 7 minutes, solo guitare et ligne de basse sont au service d'une véritable complainte sur la rupture amoureuse, sujet qui entre à l'album puisque Mr. Dan y évoque son récent divorce. On ne le dira jamais assez, les meilleurs morceaux sont le fruit de peines de cœur. Les Black Keys font la part belle à la mélodie et s'attardent sur un arrangement de plus en plus complexe, soignant les détails. Pour preuve, les titres In Time, Turn Blue Year et In Review. On reconnaît bien évidemment la patte de Danger Mouse, qui les a fait sortir de l'ombre avec Attack and Realize en 2008. Depuis, leur collaboration a mené les Black Keys au rang du meilleur groupe rock grand public, privilégiant l'efficacité à la sincérité. Je ne décortiquerai pas cet album car l'écoute répétée ne m'a pas donné envie d'aller creuser le fond, sans doute parce que la forme prend toute la place. Dans un souci d'objectivité, il faut écouter Turn Blue comme si vous n'aviez jamais entendu les Black Keys. Tu devrais faire pareil avec les Pixies, ou plutôt comme si c'est un nouveau groupe. Pas avec Mustang, ça c'est mon truc. Donc, n'aviez jamais entendu les Black Keys, ou plutôt comme si c'était un nouveau groupe produit par Dan Auerbach. Et là, vous serez sans doute séduit par un disque nuancé, alternant entre titres soul, pop, rock tendance guitare et haut, et quelques ballades pleines de nostalgie ou de douceur telles que Waiting on Words et le déchirant Inner Time. Turning Blue est un très bon album, se terminant sur le survitaminé God Get Away. Il serait injuste de reléguer les Black Keys au rang d'artistes vendus, comme le sous-entendent certains inquisiteurs du rock. Tout en s'adaptant à l'évolution des tendances, ils conservent leur empreinte rugueuse et gardent un charme incontestable. Après tout, le secret pour durer ne serait-ce pas de se réinventer ? On écoute tout de suite le premier extrait, le premier titre donc, qui ouvre ce dernier album des Black Keys Turn Blue, c'est White of Love.
Thank you. Champ Libre, le favori.
Carole, le favori de cette émission, envers et contre tous et contre toutes, c'est le dernier album de Monsieur Cass McCombs, dont je te propose de te faire écouter l'intégrale dès que je l'aurai reçu.
Tu vas m'enchaîner.
L'album s'appelle Big Wheel and Others. C'est un superbe double CD. Le titre « Sooner She Deaths Than Full Love ». Moi, je l'écoute en boucle depuis pas mal de temps. Ça fait même partie des coups de cœur qui tournent sur les ondes de Couleur FM. Donc parfois, quand je pars au boulot, je mets la radio et paf!
J'entends, Cass McCombs.
J'entends Cass McCombs.
Génial, j'adore, là, j'adore Champ Libre. Voilà. J'adore cette émission.
Tu peux sortir. That old godless game. I was dealt five aces. I swear on Peter's name. Sooner she dies than fool. Sooner she dies than fool. Love is not a tower, as the poets say. Even the loftiest prison can be escaped. I wish I never met you, of that I'm sure. I ain't any better off than I was before. I'm gonna reach to you now. Love is not a chemical nor molecular clone. I can't remember the last time I felt so alone. I'm sick as a dog, still my love rings true. I ain't any better off than I was with you. The money from wealth, but if you're trying to fool love, you'll only fool yourself. Sooner cheated than fool love. Sooner cheated. Cass McCombs, elle est belle hein, cette chanson.
Très bien. Hein? Et l'intégrale, il comporte combien de disques ?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, une petite dizaine d'albums. Mais dans la dizaine, il y a des EP, des hippies, comme on dit dans certaines émissions. Et le dernier, là, est carrément double. Alors, Cass McCombs, c'est un mec assez intéressant, puisque, en fait, c'est un gars qui faisait la route aux États-Unis en routard. Alors, pas un clodo, mais un peu sur la trace des beatniks, voilà, et de Kerouac, etc. Et puis, il a enregistré un EP. Il se trouve qu'il a trouvé des personnes qui étaient prêtes à financer la distribution de la chose parce qu'il l'a trouvée intéressante. Et il a eu droit à un prix du style le meilleur premier EP, voilà. Ce qui fait que ce mec qui avait plutôt l'habitude de vivre à l'extérieur et de faire ce qu'il voulait quand il voulait, se retrouve aujourd'hui avec un label, une maison de disques, et il enregistre des disques.
Voilà. Mais il y a pire comme destin en même temps.
Mmh. Ouais, mais ça me fait penser à comment il s'appelle, Aï, Mark Oliver Everett de Hills, et puis j'ai oublié son nom, celui qui s'est suicidé d'un coup de poignard dans le cœur.
Oh, il y en a tellement.
Elliot Smith. Elliot Smith qui était carrément, lui, au fond des poubelles lorsqu'il a sorti son premier disque et que ça a cartonné. C'était vraiment quelqu'un qui était à la rue, et à la rue au sens propre et sale du terme. Voilà.
Voilà.
Bah, oui, au fond d'une poubelle, même au sens propre, ça salit. Oh là là, il est temps d'arriver.
C'est tard, Guy, il est tard. On y va.
Stop. On va conclure cette émission. Merci, Joe, pour ta rubrique cinéma.
Bah, merci.
Merci un tout petit peu, puisque le mois prochain, tu ne seras pas là.
Je ne serai pas là, oui.
On pensera à toi quand tu te feras saquer.
Voilà, oui.
Joe va faire un petit tour au Japon. C'est un peu dégueulasse parce que nous, animateurs de champ libre, on va être obligés. Voilà, on écoutera le casse-macombe, Carole.
Oui, bien sûr.
Voilà. J'essaierai de penser à vous. Je pense à vous.
Carole, tu seras là. Tu pourras nous parler de disques.
De plein de choses. Je voulais juste, si tu me le permets, prendre une petite minute pour vous dire qu'il y a une... Oui, j'ai vu que c'était 50. Qu'il y a une réédition du premier album d'Oasis qui est sorti lundi. C'est quand même la perle du rock anglais des années 90. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez encore eu 14 ans la semaine dernière, profitez-en. C'est vraiment magnifique. 3 CD. L'objet est beau, vous avez l'album, vous avez des bonus, vous avez aussi des titres en live, et c'est vraiment juste magnifique. Donc, un petit son arrière, c'est
14
super.
14 ans, il est un peu tard pour toi. tu vas rentrer, pour ceux qui ont 19 ans et plus, dont on fait partie, on se sépare avec un titre de l'album Un oiseau s'est posé de Gérard Manset. Le titre, c'est Lumière, c'était aussi... un album de Manset qui est sorti dans les années 90 avec un texte superbe. Lolo était à la technique.
Merci
et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre champ libre.
C'est avec casse-macombe, ouais, trop bien en note.
Ça suffit.
Sans passer les lumières qui nous guidaient, peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné, le monde a tourné sans nous, sans nous attendre. Les ténèbres sont partout, ouvertes de cendres. Souviens-toi que l'on s'aimait, que l'on s'aimait quand même. Nous étions si jeunes, si fiers. Comment le dire? Nous avons perdu la lumière.
caressait nos dits, caressait nos paupières. Tout m'est égal. Mais quand même, on se souvient, on se rappelle de quelque chose qu'on pose. Show.